Bonsoir à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est tous les soirs un entretien d'une heure avec les artistes dans l'actualité culturelle, ce soir avec la musicienne Jeanne Haddad.
Un tango, une danse, un baiser.
C'est du pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te
Marie Richaud.
Et c'est que dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Souvent, les enfants, en découvrant la photocopieuse, glissent leurs mains entre les deux battants ou leur visage ou leurs bras. Et je ne sais pas si c'est pour obtenir une image magique de leur corps ou pour éprouver le plaisir d'être balayé par de la lumière forte. C'est mauvais, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose dans l'idée d'être presque cramé de lumière, dépassé comme par une vague, qui est enviable parce que cela a à voir avec la disparition autant que l'apparition. La pochette de votre dernier disque, Jeanne Haddad, signé Julien Mignot, irradie. À la manière des portraits du photographe Smith, elle vous fait apparaître et disparaître en même temps. C'est un album où les vagues de synthétiseurs se font tantôt liquides, tantôt rêches, presque noise. C'est un album où votre voix se déploie tranquillement et puissamment, peut-être comme jamais. Il est dansant et on y reviendra. Bonsoir Jeanne Haddad.
Bonsoir.
C'est donc un album qui s'appelle Radiate et qui sort chez Naïf. Vous serez en concert à Paris le 30 octobre au Trianon, mais c'est complet. On peut vous retrouver partout en France en tournée, à Marseille le 11 octobre, à Lille le 10 novembre, à Nantes le 12 décembre et au Zénith de Paris le 3 avril 2019.
C'est à peu près pour le calendrier ?
Oui, c'est pas mal.
Still
Et en fait, ça sonne déjà comme un classique. C'est Falling Hurts, c'est donc un premier extrait de votre disque Radiate. J'aimerais bien, pour commencer, Jeanne Haddad, avant qu'on parle de ce qu'on vient d'entendre, que vous décriviez ce studio à Molenbeek, en Belgique. Qu'est-ce qu'il y a quand on pousse la porte? Qu'est-ce qu'on voit? C'est l'endroit où vous avez travaillé sur ce disque-là.
Alors, c'est un studio, c'était un studio tout neuf, quasi juste terminé d'être construit. Qui a été pensé par deux musiciens et fait pour des musiciens, donc très intelligemment fait et réfléchi. C'est une grande pièce dans le fond duquel il y a une console, donc avec deux énormes enceintes dans les murs, un système très performant de son, complètement enveloppant, d'une précision redoutable. Et dans cette pièce-là, qui est donc en longueur, le long des murs, il y a des synthés, donc des synthés, des boîtes à rythme, donc des machines plutôt anciennes. Quelques-unes modernes, mais plutôt des machines anciennes. Il y a un piano à queue, il y a une batterie, et tout est branché. Tout est branché tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démontage de batterie ou de piano pour faire jouer un groupe. Il y a tout est à disposition. La console est dans la pièce, ou quasi. On peut fermer une porte coulissante si besoin, mais c'était pas notre cas. On n'a pas eu besoin de ça. Et du coup, tout est branché constamment, donc on peut faire de l'aller-retour constant entre la console, le bouton enregistrer et tous les instruments. Donc pour une musique qui se crée comme ça en studio, c'est très intelligemment fait.
Ça veut dire que c'est vraiment une manière de travailler qui est extrêmement instinctive. Votre musique, elle procède beaucoup pour ce disque-là d'accumulation, de couches. Et on sent bien qu'il aurait pu en avoir énormément plus, voire il aurait pu en avoir énormément moins. Mmh. Il y a comme vraiment quelque chose de très stratifié. On entendait là que c'est une musique où il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'amplitude. Votre voix est vaste, la musique est vaste. Alors, vous avez travaillé comme ça en se disant, là on peut en enlever, là on peut en mettre, vraiment au feeling.
Non, moi j'avais préparé quand j'écris j'écris des chansons et puis je fais des maquettes, donc c'est-à-dire c'est des ébauches de ce qu'il y a maintenant sur le disque, qui sont donc déjà un peu produites. Donc il y a des sons de synthé, il y a des choix de sons de synthé, il y a des rythmiques, il y a des toutes sortes de choses qui donnent un peu une ligne directrice aux choix musicaux. Et ensuite c'est là qui est intervenu Maestro, qui a produit le disque, qui a réalisé le disque, dont on parlera, j'imagine, un peu plus tard, qui ensuite, partant de là, soit fait complètement autre chose, soit va dans la direction que moi j'ai donnée, et on cherche des sons plus beaux que ceux que moi j'ai mis, puisque moi je suis débutante en la matière, et en l'occurrence il y avait des très beaux synthés, donc ça a permis d'aller chercher des sonorités, des matières, des densités de sons que moi j'ai pas dans mon ordinateur.
Par contre, c'était sûr que ce serait du synthétiseur dès le départ, dès les maquettes, oui. Qu'il y aurait vraiment cette matière là quitte à ce qu'elle soit précisée, retravaillée, mais qu'elle serait au départ.
Oui, moi je m'attendais pas à ce qu'elle soit matérialisée, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de travailler sur ordinateur, donc c'est vraiment ça s'appelle des plugins, c'est-à-dire c'est des choses qui reproduisent les sons des synthétiseurs de manière numérique. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on ait les vraies machines.
Ça, c'est et que vous les rejouiez, du coup.
Voilà. Ça, c'est vraiment la culture de Maestro. Donc, Frédéric Soulard et Marc Kerr qui travaillent comme ça avec des machines en tournant des boutons, etc. Chose que moi, je connais pas parce que ça demande d'avoir un peu de matériel et bon, ça, c'est toute une vie à passer, des fois. Et donc ça a été la surprise de l'enregistrement. Et ça a changé beaucoup de choses parce qu'en termes de son, c'est drastiquement différent. Et ça apporte beaucoup de chaleur et tout un tas de choses qui sont, je pense, de l'ordre de l'instinct et d'un truc plus sur le geste, peut-être.
Plus que, par exemple, la guitare?
Ah non, après, c'est,
c'est après plus, quand tu, plus c'est sur après, le geste que le plugin de l'ordinateur,
oui, voilà,
d'accord.
C'est ça. Après, quand il y a des gens qui jouent, là en l'occurrence il y a quand même des gens qui jouent, c'est-à-dire qu'on tourne les moutons, etc. Mais il y a aussi l'ordinateur qui joue les synthés, c'est-à-dire que, qui est, qui est dont on écrit des choses en MIDI, ça s'appelle. Donc on écrit dans l'ordinateur des comme des partitions qui vont aller jouer dans les synthétiseurs. Donc il y a des tonnes de câbles qui courent de partout, qui vont activer des choses dans les machines. Et voilà, mais ça c'est évidemment pas comparable à des musiciens en live qui jouent avec des instruments. Mais moi j'aime bien ce côté-là. Entre la chaleur de l'électricité et le côté mécanique de l'écriture par ordinateur.
D'ailleurs, c'est intéressant que vous disiez que c'est un studio tout neuf dans lequel vous avez fait ce disque avec Maestro Genadette, parce qu'il y a cette idée du renouveau, du nouvel élan, on entendait là dans Falling Hearts presque quelque chose de l'hymne qui va vers l'avant, est très très présent dans ce disque-là. Alors il devait y avoir une sorte d'alignement des astres entre ce que vous aviez à dire et le lieu dans lequel vous aviez à le faire.
Il y a de l'alignement des astres à tous les endroits. Pourquoi pour faire ce genre de choses, c'est toujours une combinaison de que ce soit de rencontres, de moments, de lieux. Finalement, j'ai rarement d'échecs ni de problèmes. C'est-à-dire que les solutions sont toujours les meilleures solutions. Ce qui n'a pas marché ne devait pas marcher. Et ce qui fonctionne était destiné à fonctionner. Donc, sans doute, le fait que ce soit un lieu assez nouveau, cette savonnerie de Molenbeek, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, du coup, était un écrin parfait pour nous.
Puisque vous avez dit il y avait une possibilité que Maestro aille pas du tout dans la direction que j'avais initiée avec mes maquettes, ou alors que peut-être ils approfondissent cette direction qui lui donne plus d'ampleur, plus de matière, ils ont choisi quoi ?
Mais ils ont choisi les deux, parce que
de faire autre chose et de faire quand même dans la direction que
j'avais
choisi.
Après, le plus important, c'est que ce soit bien. Et que si eux, ils ont des meilleures idées que les miennes, on prend les leurs. Hein. Il n'y a pas de problème avec l'idée. Après, il ne s'agit pas de changer complètement les chansons, mais à partir du moment où on s'est mis d'accord sur les chansons, qu'elles leur plaisent et qu'elles leur vont telles qu'elles sont, on essaye d'aller au plus loin pour faire le meilleur disque possible.
Et c'est un disque, je le disais en introduction, qui est dansant. J'avais promis qu'on en reparlerait, mais il faut en parler parce que, en l'occurrence, dès qu'on a joué le titre dans le studio, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me lever et de danser un peu. Et c'est assez immédiat lorsqu'on écoute le disque pour la première fois, et puis quand on le réécoute, il y a quelque chose du mouvement vivant, mais qui passe par la danse, qui est très présent, qui est presque comme inscrit dans la musique. Et moi, je me souviens que pour vous avoir vu sur scène plusieurs fois après Be Sensational, il y avait quelque chose qui me semblait monter en puissance comme ça. Que plus ça allait, plus je vous voyais, plus vous dansiez sur scène, plus vous étiez en mouvement. Est-ce que ça a initié quelque chose dans ce disque-là ?
Ouais, sans doute. Ça m'a pris un peu de temps de pouvoir me mouvoir aisément, ou en tout cas avec moins de timidité sur scène. Et la danse fait partie de ma vie depuis toujours, et ça a toujours été un de mes grands plaisirs avec la musique et le chant. Et je suis extrêmement heureuse de pouvoir l'expérimenter et le vivre de plus en plus le temps passant.
C'est-à-dire vous sur scène, ou aussi de pouvoir faire danser les gens avec votre musique ?
Moi sur scène, moi dans la vie, pouvoir faire danser les gens, c'est vrai que j'en avais envie en fait, et que même si c'est pas des choses que je me dis clairement avant de commencer à écrire, mais néanmoins j'avais envie de danser plus, j'avais envie que ça danse plus. Il y avait un petit côté sur la précédente tournée où les gens étaient très très respectueux aussi de ce qu'ils écoutaient, etc. Et quand j'ai arrêté le jazz et en voulant faire cette musique-là, j'avais envie que ça secoue un peu plus, et j'étais là, mais allez-y, sautez partout. Mais on peut pas forcer les gens à sauter partout. Donc j'ai beau vouloir qu'ils le fassent, ça ne se passe pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est vrai que peut-être j'ai écrit un peu des choses qui pouvaient aller un peu plus dans ce mouvement-là. Et le choix de travailler avec Maestro est clairement, je pense, même si c'était peut-être inconscient, lié à ça. C'est un groupe qui fait vraiment de la musique de danse, qui moi me fait danser de manière systématique dès que je vais les voir en concert. Ils ont cette culture-là et ce savoir-faire-là, et ils savent faire groover des boîtes à rythme, des machines. Et ça, c'est pas tout le monde. Et ils savent quand ça groove et quand ça groove pas.
Et ça, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Tout à l'heure, vous parliez de la chaleur de ces machines, de la chaleur de l'électricité, mais il y a des moments où il y a presque de la soul dans ces machines, il y a presque du R&B, il y a presque vraiment des grosses basses de hip-hop. Mmh. C'est assez difficile à définir, mais puisque vous dites que c'est important pour vous la danse dans votre vie, Janaden, est-ce que vous sauriez dire pourquoi? Pourquoi c'est si important de danser?
Je crois que c'est comme pour le chant, c'est un truc d'expression, il faut que ça sorte, quoi. il faut que ça sorte et la transformation de ce qu'on a à l'intérieur, que ce soit par la voix ou par le mouvement, moi dans ma vie c'est capital. Pour être quelqu'un aussi de très cérébral et qui réfléchit parfois à mon goût un peu trop, ça fait partie des pratiques qui m'allègent, qui me font beaucoup de bien.
Est-ce que ça va de plus en plus vers ça? Je disais que la musique m'avait semblé prendre en puissance en même temps que votre corps prenait en puissance dans la danse sur scène. Est-ce que vous diriez ça aussi? Votre propre musique à vous?
Oui, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que je suis un peu plus tranquille. Et du coup, oui, peut-être, même dans ma musique, un peu moins en train de me regarder faire, en fait. Et c'est ça qui était difficile à sortir sur le premier album, parce que du coup, j'étais en constante lutte avec mon troisième œil, et du coup, c'était assez violent. C'est vrai que de lutte, il y en a eu vachement moins. Et c'est vrai que ça, sans doute, ça s'entend, en fait, finalement, dans la musique. Ouais.
Comment ça part, le troisième œil?
Comment ça parle?
Comment il vous laisse un peu tranquille?
Moi, la solution que j'ai trouvée, c'était de faire un disque et de le jouer sur scène.
D'en faire un premier, quoi.
Après, c'est ce qu'il faut aller là où ça fait mal, en fait. Hein. donc il faut se mettre un peu en danger, en fait. Et le fait d'être sur scène, c'est vrai que c'est l'endroit où on pourrait penser que cette façon de se regarder faire pour être le plus actif, ou la plus active. Mais en fait, c'est moi l'endroit où je trouve le plus de présence et de capacité à être dans l'instant, et donc le moins de jugement. I guess I should know by the way you parked your car on sideways that it wouldn't last. Cause you're the kind of person that believes in making out once. Love him, leave him fast. I guess I must be dumb, cause you had a pocket full of horses, Trojans, some of them used. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, what have I got to lose? Now honey, I said, little red Corvette, baby, you're much too fast. Yes, you are, little red Corvette. You need to find love that's gonna last. I guess I should have closed my eyes when you took me to the place where your horses run free. Cause I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wonder if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, baby, have you got enough gas? Oh yeah, little red Corvette, baby, you're much too fast. Yes, you are, little red Corvette. Need to find love that's gonna last, little red Corvette. It's gonna last. Little red Corvette, baby, you're much too fast.
You need to find a love that's gonna last.
James Brown, his father took him to see James Brown when he was young. He got on stage and danced with him. He has that.
Prince à James Brown. Son père l'emmenait au concert quand il était jeune. Et il a même dansé sur scène avec lui. Il avait ça, et Jimi Hendrix, et Marvin Gaye. Il mélange les trois, tout le temps. Son concept sur scène, c'est Charlie Chaplin. Tu peux le voir. C'est comme ce que fait Sidney Poitier. C'est du Gregory Peck. Je peux le voir. Mais il ne le dit à personne. Le concept de Prince, c'est James Brown, Jimi Hendrix, Marvin Gaye et Charlie Chaplin. Comment il peut rater son coup avec ça ?
Impossible de rater son coup avec quatre fées au-dessus du berceau de Prince, James Brown, Hendrix, Marvin Gaye, Charlie Chaplin. Parfois, Miles Davis s'en mêle un peu dans le nombre des fées, mais elles sont toutes là. Il est en 1986 et il parle de Prince. C'est Romain de Bec de Gueffre qui vient de le traduire. Jeannadette, juste avant, on entendait une reprise d'une chanson de Prince que vous jouez depuis combien de temps?
Je pense, ça doit dater de 2009 ou 10, oui.
Donc une petite dizaine d'années. Mmh. Ici, c'était au micro de Mathieu Conquet. Parfois, elle a conclu ou elle a participé à votre set au concert. Elle se trouvait où, cette chanson-là ?
Pas celle-là, une autre un peu plus facile à jouer, qui s'appelle Forever in My Life, à la fin. Ouais. J'ai même terminé le concert des Vieilles Charrues en duo avec mon batteur, toute seule devant tant de monde, complètement inconsciente, improvisée à chanter ça. Voilà, et oui, c'est je l'ai souvent joué ça.
Pourquoi complètement inconsciente ?
Ben parce que je pense que je me rendais pas compte qu'il y avait autant de monde et qu'on n'avait pas répété le truc. Mais c'est ça c'est bien. Ça c'est le jazz par exemple.
C'est-à-dire ?
Ben la confiance que ça va bien se passer. Qu'on a les armes pour se retourner et puis sans doute une sorte de oui de dose de naïveté ou de que la scène quelle qu'elle soit il peut rien se passer de grave. D'ailleurs Miles Davis disait souvent ça.
Quand vous dites ça, c'est le jazz, c'est une manière de dire c'est les choses du jazz, les choses de ma formation de jazz qui demeurent là aujourd'hui par exemple dans ce que je fais.
Bah c'est en tout cas ce qui me reste de ma pratique, c'est parce que le jazz c'est l'improvisation. Donc la pratique de l'improvisation permet ça, permet de savoir écouter ce qui se passe autour et de pouvoir réagir au moment où ça se passe.
Vous racontez un petit peu à celles et ceux qui n'ont pas eu ce récit-là, pendant combien de temps, quel genre d'improvisation et peut-être, je ne sais pas ce que vous avez envie de dire, en tout cas sur cette pratique-là, comment ça vous a formé, Jeannadette ?
Moi, j'ai eu une pratique du jazz. C'est vrai que ça a été beaucoup dit que j'avais eu une vie dans ce monde-là avant. Et souvent, je l'ai lu en me disant, en fait, ils s'imaginaient peut-être que je fumais des cigarettes en buvant du whisky dans des clubs, en chantant des standards avec une grande robe. Un peu l'image d'Épinal. Et en fait, peut-être que je fumais des cigarettes, mais en tout cas, la musique, c'était du jazz contemporain. Donc, c'était de la... Souvent de la musique assez complexe, dans laquelle je ne chantais pas de paroles. J'avais plutôt un rôle de trompette ou de saxophone. C'était pas du scat, donc c'était quelque chose de très contemporain. Aussi de la musique improvisée, donc plus proche d'une identité free jazz. Donc des choses, enfin, moins ce qu'on s'imagine.
Dit ancienne chanteuse de jazz.
Ancienne chanteuse de jazz, voilà. Mais du coup voilà, et donc ma partie elle était technique, complexe et assez libre en fait aussi. Et du coup ça m'a formée en tant que musicienne forcément.
Et dans ce que vous reconnaissez des traces que ça a laissé, ce serait plutôt du côté de la liberté, de la confiance. Aujourd'hui par exemple, quand vous faites de la musique ou dans la manière dont vous faites de la musique.
Ouais, sur la scène aussi, vraiment. Comment sur scène il se passe rien de grave. Mais c'est vrai qu'il ne peut rien se passer de grave en fait. L'important c'est d'être là. L'important c'est d'être présent. Les gens, on les emmène où qu'on aille, on les emmène même dans les erreurs, parce que en fait, d'erreurs, il n'y a pas. Donc, franchement, et c'est, j'y crois à mort, ça. Et c'est vraiment, c'est à ça que ça sert, les répétitions. Donc, il faut vraiment répéter. Il faut être sérieux avec ça, par contre. C'est hyper important. Après, le moment de la scène, tout va bien. Il faut juste être présent. C'est pas le plus facile. Mais le seul job, c'est vraiment ça.
Est-ce que ça se travaille? D'être présent?
Je sais pas. Je crois que la pratique de la musique permet ça. C'est-à-dire que on a toujours l'impression que, ou en tout cas, on raconte beaucoup que c'est des choses qui sont innées. Ou... Je crois que quand on pratique la musique et qu'on suffisamment intensément, on découvre en fait le moment de la musique, le moment où la musique advient. L'air de la pièce change de densité, il se passe un truc, tout le monde le sent dans la fin. Et ça se passe en répétition. Ça se passe tout seul, ça se passe avec du public. Et voilà, donc ça, une fois qu'on a connu cette sensation-là, il s'agit de la recréer. Et c'est une sensation qui vient avec la concentration, avec la répétition, c'est-à-dire d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir répété avant, suffisamment pour pouvoir oublier le geste, ou alors n'être que geste. Et voilà, je sais pas ce que je peux dire d'autre, mais en tout cas, sans doute ça se travaille pas de manière frontale, ça se travaille par plein d'endroits détournés. Et une fois que ça se découvre, surtout, il ne faut pas lâcher.
Ça nous éloigne un peu de Prince, mais on va y revenir. C'est pas rien de choisir un artiste, j'imagine, pour terminer un set, ni même de choisir d'être allée inconsciente quelques minutes devant plusieurs, peut-être milliers de personnes, c'est ça, non, hein, les festivals?
Oui, c'est 60 000, c'est beaucoup.
C'est tellement énorme. Oui. Bref, donc Prince, pourquoi?
À l'époque, il venait de partir. Prince, moi, c'est mon... C'est mon phare dans la nuit. c'est quelqu'un que j'écoute depuis ma préadolescence, qui m'a formé à des tonnes d'endroits et je pense là, ce que je perçois de là, le rapport à la musique, m'a souvent remise sur les rails. Ne pas me tromper de bataille.
En l'écoutant.
En l'écoutant, oui.
Par exemple, un morceau ou un album de Prince, ça pouvait vous dire
les lives,
en fait,
surtout,
Jeanne, là, écoute, reviens dans la bonne route.
Surtout les lives, surtout écouter les lives, le voir en concert. J'ai beaucoup regardé de vidéos, de nombreuses fois les mêmes. Et c'est surtout ça, je crois. C'est surtout les concerts, en fait. Bon, évidemment, la musique, les chansons qui m'ont imprégnée. Mais les concerts... Les vidéos des concerts où on voit quelqu'un justement au fait de son art complètement en pleine possession de moyens immenses d'expression, c'est-à-dire sa voix en termes de guitare que de chant avec son groupe, à quel point ils étaient souples et en capacité de s'adapter et de réagir au moindre de ses gestes, le tout avec une grande joie, pas mal d'humour aussi sur ce qu'il était en train de faire, sur comment il joue, une sorte de jeu avec le public, une grande concentration aussi, des moments où on le voit complètement partir dans la musique. C'est tout ce que j'ai envie de faire dans la vie, donc c'est fantastique d'avoir des idoles comme ça, parce que c'est ça donne envie de travailler, en fait.
Vous parlez de souplesse, et je parlais d'amplitude, j'ai parlé aussi de la manière dont cette musique, elle était vaste sur ce disque Ready 8, et je disais peut-être comme jamais concernant votre voix, parce que c'était ce qu'on connaissait, en tout cas ce qui existe d'un album à l'autre. Est-ce que vous avez cette sensation-là que peut-être comme jamais, elle est mise devant, elle est particulièrement là, particulièrement puissante?
Moi, j'avais envie de ça pour ce disque-là. S'il y a un truc que j'avais envie de développer ou en tout cas d'aller chercher, c'était ça. J'avais une petite frustration du premier album et même de mon écriture sur le premier disque, qui m'a été nécessaire comme ça, où j'avais quand même beaucoup réduit la tessiture de ma voix.
Parce que
ben, je pense un truc de... On se rassemble, de se rassembler pour mieux pouvoir y aller. Et peut-être de tous les concerts qu'on avait fait et où du coup j'avais pas pu chanter, j'avais pu chanter que dans un style et que dans un... qu'avec... j'exagère en disant ça, mais une quinte, c'est-à-dire un ambitus assez réduit. Et j'avais envie de chanter, plus, j'avais envie de... Oui, qu'on entende ça aussi. Et donc ça, c'est... J'ai aussi écrit en fonction de ça, de ce désir-là.
Composé.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Il y a une constante dans tout ce que j'ai fait, mais tout, je dis bien tout, y compris ce que je fais maintenant. Je suis toujours liée intérieurement, je veux dire, à ce que j'appellerais un schéma, un thème, une image. Très mauvaise improvisatrice. Et donc, si je n'ai pas d'abord ça pour guider mon travail, ça me gêne beaucoup. Ce que j'appelle l'image ou le paysage est la dernière étape du thème. Il y a un thème d'abord.
Puisqu'on parle de composition, on entend ici la voix de la compositrice Eliane Radix, c'est en 2013, et elle parle d'une image, d'un paysage qu'elle ne lâche pas pour composer. Très mauvaise improvisatrice, vous avez le contraire tout à l'heure, Jeanne Haddad. Parlons de vous, en tout cas que c'était un endroit de votre pratique musicale qui était plutôt joyeux et agréable. Mais ça m'intéresse de vous entendre sur éventuellement des images de départ ou des paysages de départ qui président à la composition musicale. Est-ce que ça fonctionne comme ça pour vous ?
J'ai pas la sensation. Non, j'ai l'impression que je... C'est vraiment comme je viens de faire là, je ferme les yeux en fait et j'essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Et soit je pars comme ça pour écrire un texte, à savoir... En tout cas pour le moment encore, maintenant, je suis encore très centrée sur quelque chose, une expression de soi. De sensation. Plutôt du sensible, en fait, des limites de physique, c'est-à-dire comme une sensation de toucher ou de comment ouvrir les bras, prendre l'air, comme une voile, par exemple, ou sinon, l'autre pendant, c'est la musique, ça sera un tempo, une envie de tension, d'harmonie par exemple, ou de mélodie, voilà. Raconter quelque chose ou une envie musicale. J'ai pas de paysage, non. Mais elle fait une musique plus abstraite, j'imagine.
Un petit peu plus abstraite que la vôtre. Oui. Pour Radiate, vous avez eu envie de raconter certaines choses, parce que je disais tout à l'heure, il y avait peut-être... Je pouvais, moi, retrouver dans les textes cette idée du renouveau, de l'élan, mais pas que ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui devait être dit, que vous aviez envie de dire ?
Je crois, en fait, bon, c'est très très vague dans l'écriture, parce que quand j'écris rien de très frontal, très clair, c'est clair dans ma tête, et puis j'essaye de tout troubler une fois que ça se passe sur le papier. Mais c'est beaucoup quand même, beaucoup mon rapport au monde, à ce que je sens quand je marche dans la rue, et ouais, ce qui m'entoure. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a une sorte de tension qui était un peu montée en puissance, et je crois que c'est aussi l'expression de ça, de me rendre compte aussi, pour être un peu plus claire dans mes paroles là, me rendre compte de mon statut de privilégié dans cette société, Tant par la couleur de ma peau, par mon éducation, par ce à quoi j'ai eu accès. Et en vivant à Paris, c'est d'une clarté... Enfin, c'est impossible de pas le voir. Les disparités sociales sont criantes et d'une grande violence. Je fais partie des gens qui ont beaucoup de chance. Et voilà, donc ça fait partie des choses auxquelles je suis sensible, évidemment, et qui m'accompagnent tout le temps, en fait. Donc il s'agissait de transcrire ça d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément très clair, ça allait un petit peu sur Both Sides, qui est un des titres de l'album.
Ça allait un peu sur Enemy aussi, quand même.
Enemy, c'est plus intérieur, mais c'est vrai que Both Sides, ça parle beaucoup de ça, de comment on a tout et comment on trouve encore le moyen de se plaindre. Je crois qu'il y a un chemin à faire en tant que privilégié pour se rendre compte de notre place et afin de pouvoir envisager de comprendre comment vivent et comment ce à quoi sont confrontés ceux qui n'ont pas la chance d'être, enfin la chance. Et en tout cas, concrètement, c'est-à-dire pour des choses concrètes, c'est-à-dire logement, travail, des choses qui sont fondamentales, d'être né, par exemple, blanc dans ce pays qu'est la France. Il y a un endroit de moi qui est en colère aussi.
C'est, quand vous dites tous ces mots-là, je pense au choix de visuel des albums qui n'est pas anodin. Vous parlez de voir, de peut-être s'apaiser, des choses qui s'éclaircissent. La pochette du précédent disque, votre visage était aussi en plan proche, mais partiellement effacé par de la fumée. Et là, il est en plan très proche, il semble très visible, mais il est aussi tout à fait cramé de lumière. Enfin, l'apparition, elle n'est pas non plus qu'une apparition pour de la visibilité. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, si ça vient de vous ?
J'avais envie du positif du premier album. Sinon, évidemment, par rapport au premier album, j'avais envie de quelque chose du positif de ce qui avait pu être mis en avant, c'est-à-dire un endroit où moi j'assumais, j'avais envie d'y aller, mais en même temps de me cacher un petit peu. C'est vrai que ça a disparu. Donc c'était important de le montrer.
Beauty coming out of my ass. I'm an everlasting iconoclast. I came to destroy the past.
J'ai lu quelque part, je ne saurais pas dire où, Jeanne Haddad, que en écoutant cette chanson-là, un matin ou un soir ou un midi ou je ne sais pas quand, vous vous êtes dit « Ah, mais c'est marrant, peut-être j'ai cherché quelque chose de Peaches sans le savoir dans mon nouveau disque. »
Oui, même dans ma pratique, dans mon écriture, même depuis le premier, je pense, parce qu'elle a été super importante dès le départ. Mais c'est vrai que c'est en écoutant ce titre-là où je me suis dit « Ah, mais... j'ai reconnu des choses. En tout cas, ce rapport entre quelque chose de très électronique, de danse, vraiment club, là, pour le coup, c'est le genre de chanson qu'on écoute, qu'on entend en club facilement, et qui, néanmoins, a une mélodie, quelque chose de très éthéré, enfin, et pas que, d'ailleurs, au-dessus, et les deux fonctionnent vraiment bien. J'avais plutôt compris son influence comme quelqu'un qui m'avait permis d'écrire parce que je comprenais son geste musical. Et en fait, je me suis dit, ah tiens...
Dans le son, quoi, vous
voulez dire. Dans le son, il y a eu encore... C'était bah, vraiment bien imprégné.
Et vous pouvez dire qui c'est, Peaches, pour celles qui ne la connaissent pas?
Peaches, c'est une chanteuse canadienne qui vient vraiment de la scène punk, qui a été très... qui est connue pour ses... C'est live complètement fou. Moi, je l'ai vu en concert à la Cigale il y a 2 ans. Et était avec des performeurs déguisés en vagins géants dans lesquels elle se faisait manger. Et voilà, c'est le genre de personnage qui va très très loin et qui, à mon sens, fait énormément de bien, hein, qui est... quasi d'utilité publique.
Aussi parce que elle porte des discours, que ce soit dans sa manière d'être sur scène, d'écrire des chansons, ou voilà, on sent qu'elle est profondément emmerdée à l'idée que elle puisse être rangée dans un endroit très très sage et très borné, et que c'est pas du tout le projet d'humain pour elle.
Elle est très libératrice, elle est source de libération, c'est-à-dire qu'on sort de là, on se sent pousser des ailes, et ça m'a servi beaucoup à ça pour l'écriture du premier album.
Il y a quelque chose de cet ordre-là dans Radiate, à mon sens, presque encore plus dans l'élan, quoi. Peut-être plus puissant, plus au fait avec ça.
En tout cas, là, je suis en capacité de plus de... disons que la confiance que j'ai gagnée, je suis en capacité de la redistribuer, en tout cas un petit peu, et je sens quelque chose comme ça, de la faire refléter comme une lumière qui est après sur moi, qui repart.
Comme le titre de l'album, par exemple.
Mais dis donc, ce reste réfléchi tout ça à mon insu.
For me, Icelandic is my mother tongue, so it stands for more personal, intuitive things.
Pour moi, l'islandais c'est ma langue maternelle, et donc c'est la langue du cœur, c'est la langue des choses intuitives.
And English is more about communication.
L'anglais c'est la communication.
And more about the conscious side of things.
Et disons le côté plus conscient des choses, plus intellectuel.
So I guess it's sort of on my record that's what it means to me, but maybe it means something else
voilà
to other people.
Voilà ce que cela veut dire pour moi dans mon album, mais ça n'est que mon point de vue à moi. Peut-être que pour d'autres qui écoutent l'album, ça aura d'autres significations.
Mais ça vous arrive parfois, par exemple, d'écrire une chanson en islandais et puis de la traduire ensuite en anglais?
Most of the time.
La plupart du temps, oui. C'est le
but
cas.
I also sometimes will now, especially now I live a lot abroad. I will sometimes.
En ce moment, je passe beaucoup de temps à l'étranger.
Sometimes I will write in English and translate to Icelandic.
Et donc, parfois, il m'arrive de penser en anglais, de songer à la chanson en anglais, puis de la traduire en islandais.
And when I do concerts in Iceland, I will sing all the songs in Icelandic.
Mais si jamais je fais un concert en Islande, alors je chante toutes les chansons en islandais.
Quand vous rencontrez quelqu'un, le souvenir qui vous en reste, c'est plus son visage ou plutôt sa voix?
Voice.
Sa voix.
Yeah, definitely.
Oui, c'est sûr.
And the birthday, I have a thing about birthdays.
Et sa date d'anniversaire. J'y pense souvent aux dates d'anniversaire des gens.
I still remember the birthdays of everybody who went to school with me when I was like 8 or something.
Je me rappelle des dates d'anniversaire de tous les copains qui étaient avec moi à l'école quand j'avais 8 ans.
But I never remember names. Never.
Mais les noms, je ne m'en rappelle jamais. Jamais.
I think it's common with people. Music and mathematics are...
C'est un truc qui est habituel, je crois, chez les gens. La musique et les mathématiques, c'est quelque chose qui fonctionne un peu ensemble, les chiffres.
It's the same kind of structure.
C'est la même structure quelque part, la musique et les chiffres.
C'est la voix de la musicienne Björk au micro de Rebecca Manzoni en 2004 dans l'émission Éclectique sur France Inter. Jeanne Hadet, peut-être vous faire réagir à cette première dualité qu'on pose souvent aux artistes qui sont francophones, qui parlent français, qui parlent très bien français, hein, comme on vient de le démontrer pendant cet entretien par Jeanne Hadet, et qui écrivent et chantent en anglais. Elle parle d'une langue du cœur et d'une langue plus consciente, plus de l'ordre de la communication. Est-ce que ça veut dire que l'anglais pour vous, c'est ça? C'est une forme de lâcher prise, un endroit où il y a moins de conscience, où il y a moins de tête, où il y a moins de mental?
Je vais lui piquer sa réponse. C'est vraiment... J'ai souvent parlé de pudeur, mais ça se rejoint et je trouve que c'est très très juste. C'est-à-dire que je parlais de troisième œil et de... Ça libère, en fait. C'est forcément, c'est un endroit de... C'est un endroit plus libre, plus pur, ou en tout cas plus moins chargé. Et c'est vrai que sans doute ça permet de se lancer, ça permet d'essayer des choses, de prendre des risques, il y a moins d'incidence peut-être. Ça veut pas dire que on fait les choses n'importe comment, mais en tout cas c'est peut-être moins grave en tout cas c'est vrai que pour le moment c'est comme ça que ça se passe.
Ça fait deux fois que vous dites ça. Sur scène, il se passe pas des choses graves. Il se passe que des choses pas graves. Et en anglais, finalement, on chante des trucs pas graves. Donc vous voulez faire une musique qui soit pas trop grave, Jeanne Hadet?
Ah, pas grave. Non, j'aime bien quand les choses ont. C'est parce que je pense que pour que c'est de la consistance ou du poids ou disons un impact à la fois sur moi ou sur les autres. En tout cas avec la personne que je suis, ça marche mieux si je me lâche un peu la grappe et si je suis un peu plus dans le lâcher prise. Comme je disais, ça se travaille, le lâcher prise. Mais je me sens plus puissante et plus en capacité d'interagir avec le monde et avec un public, par exemple, quand je disparais un petit peu, plutôt que l'inverse.
Make the day shorter, disappear. Wait until it's over and wander around. Make the air darker, there is still light in the hour before the sun goes down. Double the time of night, have no use of the light. Double dose of darkness, you will. Trust and close your eyes, forget about the sky. You know it is no crime to leave. Make the day shorter, disappear. Wait until it's over and wander around. Make the air darker, there
disais tout à l'heure en introduction, il y a longtemps maintenant, que vraiment les synthétiseurs avaient plein de matière dans ce disque-là, Jeannadad. Et là, on entend qu'ils peuvent être vraiment plus rêches, plus, presque comme des caillasses, quoi, parfois même tendre vers de la musique un tout petit peu plus noise. Quand on l'a lancé, vous avez levé les bras, je dois le dire, hein, et vous avez dit « Ok, mon disque est sorti ». C'est quoi comme sensation ?
Bah, c'est assez émouvant, en fait, la sortie d'un disque, parce que on s'en rend pas vraiment compte avant le jour J, parce qu'on est en plein d'autres choses, mais le moment où ça sort, c'est le moment où ça y est, il va pouvoir être entendu, et il se trouve que je l'aime beaucoup, ce disque-là, j'en aime toutes les chansons, et c'est une grande joie, en fait, de pouvoir le partager. Imaginez que les gens qui viendront au concert l'auront entendu, écouté, peut-être aimé. Et oui, c'est qu'il est sorti, ça y est. Du coup, il n'est plus que pour un petit groupe de gens qui se disent ça nous plaît à nous. Et est-ce que ça va prendre ?
Pendant combien de temps ça a été que un petit truc pour quelques personnes ?
Je crois qu'on l'a terminé vraiment début. Bon, ça n'a pas duré si longtemps. En fait, on a dû le terminer vraiment en juin. Donc, ça va. Ça n'a pas été une attente insupportable.
Est-ce que on peut essayer ? Tout à l'heure, on essayait de trouver des mots pour dire pourquoi est-ce que c'est important de danser ou pourquoi c'est important dans votre vie de danser. Mais pourquoi c'est important de partager la musique ?
Partager la musique, c'est-à-dire la mienne ou le ou
non, même de manière générale. Vous pouvez parler de la vôtre, mais pourquoi est-ce que ça fait tant de bien ? Pourquoi ça rend joyeux ? Pourquoi ça nous émeut ?
Je crois que c'est la même le truc de l'auditeur est le même process que celui qui l'a fait. Moi, j'ai une tonne d'albums qui m'ont aidé à me lever le matin, qui m'ont guéri d'un chagrin ou donner du courage si nécessaire ou aider à aller courir. Donc ça accompagne, et en fait ce que moi je vais exprimer dans ma musique, en fait il y a quand même de grandes chances que d'autres le ressentent aussi ou aient ressenti la même chose dans leur vie à un autre moment, et ça sert à ça, en fait ça sert à mettre en fait quand même encore quelque chose d'un peu abstrait, d'exprimer via encore un peu d'abstrait des choses sur lesquelles on a du mal à mettre des mots. Et en fait, c'est un vecteur, c'est un canalisateur. Je sais pas, des mots très très jolis, mais moi j'ai souvent vu ça comme des courants qui se teintent de d'autres sensibilités et qui font que nos peines ou nos joies sont amplifiées, et ça se partage avec les gens en public, dans le public, quand on est auditeur sur scène, quand on joue avec des musiciens, et puis quand on écoute de la musique. Je crois que c'est très important, oui.
C'est palpable sur scène ? Vous sentez que ça se colore des gens qui sont là ? Alors quand il y en a 60 000, c'est difficile de faire le tri, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de ce que vous avez envie de partager qui circule en effet ?
Je crois qu'en tout cas, j'ai la responsabilité d'essayer de le faire d'une façon qui me convient. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que les gens ils se mettent d'eux-mêmes dans la musique qu'ils écoutent et dans un concert qu'ils viennent écouter, et en particulier le mien. Donc, et pour qu'ils puissent mettre d'eux-mêmes, il faut que je leur laisse de la place. Et ça s'organise. C'est-à-dire que du coup, c'est vrai que je suis plus très à l'aise avec le côté on éteint les lumières et c'est moi que voilà, attention, roulement de tambour. Le spectacle va commencer et maintenant, toi tu écoutes et moi je chante. Et ça me va plus tellement. J'essaye d'imaginer autre chose et on verra si on y arrive. Mais c'est vrai que on est très sollicité dans ce monde-là en tant que consommateur et basta. Et sur la musique, je trouve ça quand même dommage que. Alors que c'est quelque chose qui peut être si intense et si fort et si important, de considérer les gens que comme des réceptacles à ce que j'ai à leur dire et pas comme des acteurs de quelque chose qu'on peut faire ensemble.
Ça tombe bien, il y a beaucoup d'espace dans ce disque-là, justement. Ready 8, c'est le nom de ce nouvel album. Merci beaucoup, Jeanne Haddad,
d'être
passée par ici. Je rappelle juste quelques dates de concert. Il y en a une qui est complète, mais bon, on l'a dit quand même, c'est le 30 octobre au Trianon à Paris. Il y a une tournée et des dates partout en France. Par exemple, le 11 octobre à Marseille, le 10 novembre à Lille, le 12 décembre à Nantes. Et rendez-vous est pris pour le Zénith le 3 avril 2019. C'est beaucoup de monde aussi, le Zénith, non?
Oui.
Ce soir, c'était Xavier Lévesque, Lise Marie Barré à la réalisation. Par les temps qui courent, on se retrouve à 21h sur France Culture demain, quand vous voulez, sur franceculture.fr et en podcast. Vous pouvez vous abonner évidemment au podcast de Par les temps qui courent. Merci beaucoup à Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Lou Quevauvillier. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.
Can you feel the vibe?